qu'on est venu ici aujourd'hui, je suis sûre que c'est la terre.
Je suis convaincue que le meilleur est ici. Bon, ben là, c'est beaucoup, là. Pour une fille qui n'est pas trop moderne, là, j'en fais pour mon rhume. Merci beaucoup au comité organisateur, surtout à M. Francis Lard, qui a réussi, je ne sais pas comment, à me convaincre de venir ici. Parce que sortir de ma tanière, c'est pas facile et c'est un bon défi. Alors, félicitations. Mon mari se demande encore comment vous avez fait. Ouais. Bon, avant d'aller plus à fond, avant de commencer dans le vif du sujet, je sais qu'il y a, bon, on est peut-être une quinzaine ici aujourd'hui, et il y a certainement une quinzaine de sujets d'études. Alors, tous ne sont pas nécessairement familiers avec le milieu autochtone, ni avec l'adoption, et ainsi de suite. Alors, je vais faire une petite mise en contexte. Attendez un petit peu que je pratique ça. Voilà! Oups! Attendez un peu. Je pense que je vais avoir besoin d'un assistant. Non, OK, avant quoi? Ben, c'est ce que je fais, mon cher ami. Regardez, regardez. Occupez-vous-en d'or. Oui. Je vous fais signe qu'à changer. Merci beaucoup. Bon, alors d'abord des explications. Trois précisions. D'abord, concernant le concept d'adoption coutumière. Bon, tout le monde n'est pas nécessairement familier avec ça. En français, on dit adoption traditionnelle ou adoption coutumière. En anglais, customary adoption. OK? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie dans les faits? Alors, brièvement, c'est tout simplement le fait pour des parents biologiques, donc pour des parents d'origine, de confier leur enfant d'une manière tout à fait volontaire et généralement spontanée, c'est à un membre de la famille immédiate ou élargie, pour que ces gens-là élèvent l'enfant comme s'il était véritablement le leur. Alors, ça se fait sans formalité, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Alors, quand je parle d'adoption coutumière ou d'adoption de droit autochtone, c'est de ça dont je parle. Deuxièmement, mise en contexte de la situation juridique au Canada. Brièvement, il y a uniquement en Colombie-Britannique que le législateur s'est penché là-dessus en 1995 pour introduire un article dans la loi sur l'adoption pour reconnaître l'adoption coutumière autochtone. Ailleurs, c'est dans les territoires du Nord-Ouest, donc c'est un territoire fédéral. Donc, on comprend qu'il n'y a pas d'autres provinces là, qui se sont prononcées officiellement là-dessus, du moins pas par la voix de leur législateur. Les territoires du Nord-Ouest ont une législation là-dessus depuis 1995, la loi sur la reconnaissance de l'adoption selon la coutume autochtone et son règlement d'application. Au niveau de la jurisprudence, on comprend qu'au niveau des territoires du Nord-Ouest, ça pullule de jugement, même avant la loi de 1995. C'est là, dans les territoires du Nord-Ouest, que les juges ont reconnu le plus tôt, là, au pays, les adoptions coutumières comme ayant de véritables effets juridiques, comme valant pour une adoption qui aurait été faite autrement en vertu de la loi. Pour vous donner une idée, dans la décennie 1960 à 1970, le juge Morrow, qui était dans les territoires du Nord-Ouest, à lui seul, dans cette décennie-là, il a confirmé au-delà de 400 adoptions. Et troisième et dernière distinction, c'est les Autochtones, j'ai mis en parenthèse PN pour Première Nation, et le Nunavik. C'est que la situation, du moins sur le plan de l'adoption, elle est différente, dépendamment qu'il s'agisse des Autochtones du Nunavik ou du reste de l'ensemble de la collectivité autochtone du Québec. Alors, quand je vais parler d'Autochtones, je parle du premier groupe à gauche, et je spécifierai là qu'est-ce qu'il y en est pour le Nunavik. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Merveilleux. Non, le partage de l'espace normatif. Ah, ben, dis-moi pas, vous avez pesé deux fois. Ben, moi non plus. Bon, voilà. Alors, le partage d'espace normatif sur le territoire québécois. Alors, il faut comprendre, prenez pour acquis, puisqu'on ne peut pas aller très, très en profondeur aujourd'hui, mais qu'il s'agit de vous présenter un topo de mon sujet d'étude. Prenez pour acquis qu'il y a encore aujourd'hui, d'une manière contemporaine, des adoptions coutumières qui se passent dans les différentes communautés autochtones du Québec. Ça se passe de gré à gré, tout à fait volontairement, sans papier, sans avocat, sans quoi que ce soit. Le point où il y a une bonne différence, une différence importante avec le droit québécois, c'est que l'enfant conserve des relations, c'est pas écrit ici, c'est écrit ici, l'enfant conserve des relations avec ses parents d'origine et avec toute sa famille d'origine. Et il n'y a pas l'aspect non plus de secret ou de confidentialité qui caractérise notre système québécois d'adoption. Donc, on peut voir, là, il y a des différences vraiment importantes, fondamentales, et celle qui est la plus marquante, du moins du point de vue autochtone, c'est la deuxième à droite, abandon ou faute des parents. Okay? Je reviendrai un petit peu plus tout à l'heure. Généralement, dans le système québécois, alors soit qu'il y a une adoption selon le consentement, bon, ou s'il n'y en a pas, il faut prouver en quelque sorte que les parents ont abandonné l'enfant. Donc, il y a une question, il y a une notion de faute pour un certain pourcentage d'adoption, alors qu'au niveau autochtone, ça n'a aucune résonance. Ça ne veut rien dire, il n'y en a pas de faute. Le motif, oui, excusez, généralement, le motif pour procéder à de telles adoptions, ben, ça peut être par exemple le jeune âge de la mère. Alors, la mère qui a 15 ans, bon, ainsi de suite. Je regarde une fois de temps en temps parce que moi, les notes que je me suis faites sont différentes un peu. Alors, je veux être sûre d'être au bon endroit. Bon, comment l'État réagit? Quelle est la position de l'État? Alors, ici, au Québec, en Amérique du Nord, on fonctionne comment? État, je vous fais une histoire courte, État égale droit. À peu de choses près, je ne suis pas ici pour faire dans la nuance beaucoup cet après-midi. Donc, le droit est une créature de l'État. Donc, ce qui ne vient pas de l'État n'est pas du droit. Alors, c'est pour ça que, généralement, on ne parle pas du droit autochtone de l'adoption, mais qu'on parle toujours de la pratique de l'adoption coutumière. On parle d'une pratique, d'une coutume, d'une tradition, mais rares sont les auteurs ou ceux qui parlent du droit autochtone de l'adoption. Donc, dans notre système, on sait tous qu'on fonctionne selon un principe de territorialité. Hein? Alors, la même loi s'applique à tout le monde, un peu de choses près, sur l'ensemble du territoire. Je laisse faire les exceptions. On change. Voilà, interprétation est faite par l'État. Bon, vous, je ne sais pas de quel milieu vous venez, où vous vivez, et ainsi de suite. Moi, ça fait quelques années que je suis un petit peu plus dans les pays d'en haut, que j'ai quitté Québec, et que je travaille dans un environnement complètement différent. Et je suis toujours surprise de voir de quelle manière l'État ou les allochtones interprètent, comment ils traduisent dans leur langage le phénomène de l'adoption coutumière. Alors, comment l'État réagit? Mais l'État réagit, bien, c'est simple, c'est pas prévu dans la loi, c'est pas prévu dans notre système normatif. Donc, il n'y a aucun effet juridique à ça. Ça n'engage que des obligations morales. Il n'y a rien de juridique, c'est la bonne gentillesse, c'est tout. Et surtout, les parents d'origine, ça implique dans la plupart des cas que les parents d'origine aient abandonné leur enfant. Et à droite, dernière chose, c'est que pour l'État québécois, la responsabilité de l'enfant incombe toujours à celui qu'on appelle le parent légal, donc le parent biologique, le parent en titre de l'enfant. Donc, La personne, on voit tout de suite là, ce qui peut arriver. Là. La personne qui en prend soin et qui élève l'enfant toute sa vie durant n'a pas, selon le droit québécois, ne possède pas tout l'arsenal des prérogatives et des obligations de l'autorité parentale. Donc, il y a un petit peu de distorsion. On change, monsieur. Quels sont les impacts ou les conséquences de la non-reconnaissance de la part de l'État, alors de la non-reconnaissance étatique de l'adoption coutumière? Pourrais-tu, de ne pas vous en parler trop longtemps et de ne pas déborder sur le temps de mes collègues, j'ai pris la peine d'indiquer, de faire ressortir deux citations. Pourrais-tu de ne pas aller trop loin? Rapport Lavallée. Alors, il y a eu un groupe de travail sur le régime québécois d'adoption qui vient de rendre un rapport le 30 mars 2007, donc c'est tout chaud, tout récent. Le groupe avait comme mandat d'évaluer notre système législatif actuel sur l'adoption en regard des nouveaux besoins identifiés par la société d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il conclut en parlant de l'adoption coutumière ou traditionnelle? On dit la non-reconnaissance légale de l'adoption qui fait que ça demeure une adoption de fait, il faut que je lise là parce que moi je ne l'ai plus ici, pose certains problèmes, alors surtout liés à l'exercice de l'autorité parentale, car, comme je vous disais à la diapositive précédente, pour l'État, le parent responsable, donc le parent qui doit consentir aux soins, c'est le parent qui n'est plus là, qui est parti dans la brume, là. On peut changer. Donc, toujours de ce même rapport-là, qui est tout chaud, on dit que cette absence de règles occasionnerait un flou juridique qui se trouve accentué par le fait que la pratique de l'adoption coutumière, elle n'est pas égale, elle ne se fait pas d'une manière uniforme d'une communauté ou d'une nation à l'autre. Et on dit l'absence de documents légaux requis pour procéder, par exemple, à l'inscription de l'enfant à l'école, pour consentir aux soins médicaux, pour obtenir un passeport, carte d'assurance maladie, tout ce que vous voulez, tout ce qui est à gérer au quotidien et que théoriquement, c'est le titulaire, l'autorité parentale qui doit le gérer, ben là, on fait quoi? La situation particulière du Nunavik, je pense que je rentre dans mon temps, non?
Tout à fait, tout à fait.
Parce que je fais des bons efforts. La situation particulière du Nunavik, où lorsque la réalité est ce qu'elle ne doit pas être en regard de la théorie officielle de l'État. Ouf, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, j'ai cité quelques sources, faites-moi grâce des détails, mais on retrouve amplement de documents officiels. Moi, ce que je dis à la rigueur, c'est pas important. Ça. Mais, non. Merci. On retrouve amplement de documents officiels qui disent, on le voit dans les jugements, on le voit dans les rapports, peu importe, qui disent, il y a une entente administrative, ou il y a une directive, ou il y a une politique, ou il y a, tous des trucs du même genre, entre le bureau du directeur de l'État civil du Québec, et le Nunavik, en ce qui concerne l'adoption coutumière. Alors, il y aurait quelque chose, les juges en parlent, le qualifient comme de politique, de directive, et ainsi de suite. Mais ce qui est particulier, c'est que je vous mets au défi, je suis même prête à mettre une bouteille de champagne, je vous mets au défi d'obtenir ces documents-là par la voie officielle. Hein? Je ne les aurai jamais. Et ça, c'est un hic. Alors, description sommaire du processus, comment ça fonctionne? En somme, c'est que les parents biologiques de l'enfant et les parents adoptifs complètent un formulaire, disent « oui, j'accepte, je te confie l'enfant, oui, je le donne, oui, je le confie en adoption coutumière », pour faire une histoire courte. c'est attesté par, on dit, le maire du village nordique, qui dit « Oui, je connais les coutumes des gens ici, j'atteste que c'est effectivement une adoption selon la coutume. » Ils prennent tous ces papiers-là, ils l'envoient au bureau du directeur de l'État civil, et le directeur de l'État civil émet un certificat de naissance. Soit qu'il remplace le premier, s'il y en a déjà eu un, ou c'est le premier certificat de naissance de l'enfant. Mais quid, question? Changez donc de diapo pour voir. Merci. Mais, question, est-ce que cette manière de procéder-là est prévue dans notre système normatif? Est-ce qu'il est prévu? Non. Il n'existe pas. Alors, on apprend à l'université, comme des bons étudiants au bac, hein, on apprend que l'adoption se fait de telle et telle manière, que c'est le directeur de l'État civil qui émet les certificats de naissance et qui les émet soit suivant la preuve, qu'il y a eu accouchement, etc., ou soit suivant un jugement d'adoption. Mais ici, il n'y en a pas. Alors, on est dans un système parallèle qui est en marge du système étatique. Et qu'il faut prendre avec des petites pincettes, soyez-en assurés. Le rapport Lavallée dit même, officiellement, le processus mis en place, et elle dit, pour légaliser les adoptions coutumières, évolue en marge du régime étatique. Merci. Je reviens à ma problématique de départ. Bon, alors, l'adoption d'un enfant autochtone peut, pour ne parler que du Québec, donc dans certaines circonstances, être l'objet de deux systèmes normatifs. Alors, soit le système étatique, soit le système propre à la plupart des Autochtones ou au Nunavik. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'un Autochtone qui est au Bétouane, à Wabashi, ou bon, peu importe où, dans une communauté autochtone du Québec, éloigné des grands centres urbains, proche de ses traditions, et pour qui le Code civil du Québec, ce n'est utile qu'à alimenter le feu. Mais c'est vrai, ils sont loin. Alors, ils procèdent entre eux à des adoptions, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ils ne voient pas du tout le besoin de recourir au modèle étatique. On continue. Où on en est au Québec? Depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, il y a des recommandations par des organismes autant autochtones qu'allochtones qui disent, écoutez, on devrait modifier le droit québécois pour qu'il tienne compte de l'adoption coutumière. Ça fait 24 ans de ça. Et je ne crois pas que ce soit pour demain la veille non plus. Continuer donc. Okay. Si j'ai un peu de temps, je m'étirerai. Est-ce que je suis dans mon temps? Est-ce que j'accélère ou si je ralentis? Non?
Ça, c'est 3 minutes.
Ouf! OK. Je ne pose plus de questions. Alors, en résumé, la problématique générale soulevée, c'est de comprendre que dans certaines situations, un enfant, ses parents peuvent être placés devant différents univers normatifs tout en même temps. Faut se questionner sur la manière dont ça fonctionne actuellement. Est-ce que c'est viable? Est-ce que l'équilibre que le opéré par l'État... Ah ben je vous crois, je le sais, hein? Est-ce que l'équilibre est précaire, voire artificiel, ça va nous mener où? Vaudrait-il pas mieux prendre les devants et contenter un peu tout le monde pour qu'il n'y ait pas trop d'enfants dans les limbes et qu'ils soient dans une situation juridique non reconnue? Et quid, qu'en est-il de la bonne gouvernance de l'État? Est-ce que l'État se satisfait de son obligation, de son devoir de bonne gouvernance? S'il dit oui d'une main, puis il fait non de l'autre côté. S'il dit oui, c'est important, mais ça fait 24 ans qu'on lui écrit de faire quelque chose, puis il dit, je vais faire un autre comité de travail. Alors, bref, l'État doit-il repenser, voire reconstruire le système juridique pour tenir compte de cette réalité? On peut changer. Évidemment, la réponse, ça va dépendre, selon une approche économique, du calcul que l'État opère toujours, du calcul opéré par l'État coût-bénéfice. Est-ce que j'ai plus d'avantages à en parler ouvertement et à faire des changements, ou est-ce que j'ai plus d'avantages à ce que ça continue de se passer comme ça, en dessous du tapis, et que ça ne satisfasse pas que quelques autochtones ici, à gauche et à droite? Ça impliquerait quoi pour l'État de reconnaître officiellement l'adoption coutumière? Il faut comprendre que ce serait créer un régime particulier pour certains individus. Et donc là, on quitterait la logique de territorialité pour entrer dans une logique de compétence personnelle. Voyez-vous là, tranquillement ce qui se dessine? Alors, est-ce que l'État veut ça? Est-ce qu'il est prêt à ça? Bon, ce serait admettre l'existence d'un autre droit que le droit étatique. C'est quand même quelque chose de gros à briser. Ce serait adopter plutôt, et ma collègue vous en parlera tout à l'heure, une approche pluraliste du droit. Et finalement, ce serait s'autoriser à concevoir, à concevoir un système normatif, mais sur de nouveaux paradigmes. Alors, de laisser les vieux postulats, la vieille dogmatique, et de partir sur autre chose. L'État le veut-il et a-t-il avantage à le faire? Point. Ça terminerait ma présentation. J'avais d'autres diapositives, parce que je ne savais pas si j'allais rentrer dans le temps ou pas. Alors, si on a du temps en surplus, je peux filer. Sinon, j'ai terminé. C'était ma présentation.
Écoutez, si vous voulez rapidement passer à travers de votre dernière diapositive.
Je vous ai dit tout à l'heure comment l'État interprétait, changez-moi les pas trop vite parce que moi je les ai plus ici. Manche. Merci. Je suis gauche un peu. Je vous ai dit tout à l'heure comment l'État interprétait la situation factuelle, l'adoption coutumière autochtone, mais comment les Autochtones maintenant interprètent ce que l'État interprète. Okay? Alors, on revient à la case de départ. Ils ne comprennent pas, ils sont atterrés, ils ne comprennent pas pourquoi il faut recourir à une tierce personne, à une personne étrangère à la famille, pour régler une question aussi intime et aussi personnelle que de savoir qui va s'occuper de l'enfant. Moi, je parle régulièrement des gens qui ont procédé à de telles adoptions, soit qu'ils sont adoptants ou soit qu'ils ont été adoptés. Et puis, je sais que je ne suis pas très populaire quand je leur dis, mais pourquoi vous n'avez pas légalisé le processus? Hein? Les boucliers se lèvent, mais pourquoi? Pourquoi légaliser le processus? Okay, alors, on est complètement sur une autre planète. Pourquoi? On n'en a pas besoin. Regarde, je m'occupe de cet enfant-là, ça fait 23 ans. Ça n'a pas été légalisé. Alors, pourquoi? Continuez donc. Non, OK, je ne veux pas rentrer dans trop de détails. C'est bon. Je vais m'arrêter ici.